J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman Gar, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 58e édition de Roman Gar, j'ai l'honneur, le bonheur et le plaisir d'accueillir la romancière lyonnaise de naissance, indinoise, lozérienne, meurtoise de cœur et francilienne d'adoption, Cécile Baudin, dont le quatrième roman « Deuil de sel » est paru le 19 mars 2026 aux éditions Presse de la Cité et dans la collection Presse de la Cité Noire. Cécile, bonsoir.
Bonsoir Michel, plaisir partagé.
Arthur est une habituée et une fidèle de Radio B, puisque c'est la quatrième fois que tu nous rends visite dans les studios, que ce soit dans le magazine ou dans Roman Gar. Radio B est devenue un passage obligé.
Ah, c'est une question. Bah,
oui.
Alors, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, oui. Voilà, j'essaye de venir, bien que n'étant pas indinoise en ce moment.
Ben
mais
oui.
Oui, parce que c'est une espèce de marqueur depuis le début. Donc une espèce de petit talisman qui m'a probablement porté chance au départ, alors je le garde.
Eh ben voilà, c'est gentil. Radio B comme Baudin, hein, évidemment. Radio Baudin ferait un très beau nom de radio. On y écouterait quoi ?
Radio Baudin, on écouterait pas mal de trucs des années 80 et 90, hein, je dois l'avouer. Hein. Ouais. On irait jusqu'à 2000, quand c'est vraiment très très bien.
Ouais.
Et puis après, non.
Non. Alors... La fidélité, c'est important pour toi. Ne pas oublier d'où on vient et avec qui, ça fait aussi partie d'une de tes, tes marques de fabrique.
La fidélité, et même au-delà, au-dessus de la fidélité, je mets la loyauté. C'est encore plus que la fidélité, mais oui, pour moi, la loyauté, savoir ce qu'on doit, à qui, jamais l'oublier et toujours chercher cette réciprocité de loyauté me semble un des fondamentaux de la vie, toutes les vies d'ailleurs, amoureuses, professionnelles, familiales, sociales en général. Et je trouve que le monde tournerait beaucoup mieux si on était tous loyaux envers les autres et envers nous-mêmes.
Bien. Ton dernier passage sur nos ondes date du jeudi 29 mai 2025 à l'occasion de la sortie de ton troisième roman « Dur comme fer » paru le 20 mars 2025 aux éditions Presse de la Cité et de ta venue à la médiathèque du Centre culturel Aragon à Oyonnax qui avait accueilli l'émission. Une année écoulée, depuis 29 mai 2025, une année écoulée encore pas comme les autres. Certes, un quatrième roman « Deuil de sel » paru le 19 mars 2026. Certes, des séances de dédicaces dans les librairies, les médiathèques et les salons. Et toujours de nouveaux prix et récompenses. Alors ce qui a changé, c'est peut-être la notoriété des lieux qui t'ont invité. Je pense à Quai du Polar et d'une reconnaissance de plus en plus importante, que ce soit de la part des lectrices et des lecteurs, mais aussi des libraires, des blogueurs. Et des influenceurs, on a l'impression que chaque année, tu gravis une marche. T'es-tu fixé des objectifs ?
Oui, je m'en fixe tout le temps, en fait, depuis que je suis petite. Et je pense que jusqu'au dernier jour, je m'en fixerai. Et j'essaye d'année en année de faire mieux, de progresser, d'apprendre. Et c'est d'ailleurs ce qui me plaît, c'est d'avancer tout doucement, à mon rythme, marche après marche. J'aime bien ça. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette aventure livresque, c'est le chemin, le voyage, plus que la destination. Et c'est presque plus sympa de gagner d'année en année des lecteurs, quelques galons, de la légitimité. Effectivement, c'est la première année où je fais Brive, Quai du Polar et quelques salons de ce genre. Et j'en suis très fière. Et j'ai l'impression de l'avoir un peu gagné, d'une certaine manière, à la quatrième année. Donc c'est chouette.
Combien de marches te reste-t-il à grimper ?
Bah, autant que deux jours à vivre, je présume. Hein. Donc ça en fait quelques-unes. Hein.
Oui.
Va falloir de bonnes cuisses.
Avec le temps, tu es devenue très présente sur les réseaux sociaux. Une présence presque obligatoire, je dirais nécessaire pour promouvoir ton travail de romancière. Une présence qui prend beaucoup de temps, j'imagine. Ça se fait au détriment de l'écriture.
Non, je pense pas. Alors, bon, je suis présente, mais de manière quand même soft. D'abord, j'ai des limites très, très claires. Je n'y parle jamais de ma vie perso et je ne m'y montre jamais, moi, dans mon monde perso. Simplement, c'est vrai que c'est une façon vraiment très facile et très est très positive si on l'utilise bien, de garder un lien avec beaucoup de gens, de dire merci aux gens qui lisent et qui chroniquent nos livres, de dire merci aux libraires, de mettre en valeur tout cet écosystème autour du livre qui en a besoin. Donc c'est plutôt une espèce de caisse de résonance pour moi, que j'alimente, mais non, ça me prend vraiment pas... D'abord, je suis vraiment pas la plus douée sur le sujet. J'ai fait quelques progrès, c'est sûr.
Bon, mais... tu y es de plus en plus, on te voit, tu postes régulièrement, tu partages, tu
bien
postes
sûr,
très
parce
régulièrement.
Que mais quand j'ai des trucs à dire, des fois je dis rien pendant 3 semaines parce que j'ai rien à dire, mais effectivement, dès qu'il y a des salons, des dédicaces, des libraires, des critiques ou des choses de cette nature, je fais tourner parce qu'encore une fois, c'est une façon aussi de dire merci de manière large et directe. C'est un outil très puissant en fait. Hein. Au départ, je croyais que c'était un petit peu gadget, un petit peu anecdotique, mais en réalité, je m'aperçois que ça me permet de toucher un nombre de gens que jamais tu touches physiquement, ni en salon, ni en librairie. Donc c'est une espèce de grand salon virtuel et permanent. Et c'est comme ça que je l'utilise.
Alors ton troisième roman, Dur comme fer, clôturait un triptyque avec Marc de Fabrique et La Constance de la Louve. 3 romans dont l'ordre d'écriture ne correspond pas forcément à celui de leur parution et dont le dernier a été écrit en 2022 alors que Marc de Fabrique n'était pas encore paru aux éditions Presse de la Cité. Tu me confirmes ?
C'est vrai.
Ouais. On peut parler de la fin d'un cycle avec Dur comme fer ?
Oui. Oui, et ne serait-ce que parce que quand j'ai commencé à écrire, je me suis fixé une règle. J'ai beaucoup de règles. Et je me suis fixé une règle qui était d'essayer, si possible, de ne jamais faire moins ou plus de 3 livres dans une même veine. Toujours 3 par 3. Ne serait-ce que parce que moi, en tant que lectrice, avant tout, lorsque notamment il y a des héros récurrents ou des thématiques communes, à partir du 4e ou du 5e, je commence un peu moi à me lasser. Souvent. Et donc je m'étais dit, ok, si un jour j'écris, je fais 3 et au bout de 3, je me force à trouver autre chose à dire et à raconter d'une autre manière. Donc effectivement, Dur comme fer, c'est le fin d'un cycle dit 19e siècle et industrialisation française. Et Deuil de sel entame l'ouverture d'un nouveau.
Dur comme fer marque aussi la fin d'un apprentissage, celui du travail de romancière que tu as débuté avec la Constance de la Louve, puis Marc de Fabrique. Après les 3 premières années de ton parcours artistique, les retours, les récompenses, tout le travail fourni depuis, on peut dire que l'examen de passage est réussi.
J'ai l'impression que chaque année, on remet tout sur la table. On ne peut pas dire qu'un examen de passage soit réussi parce qu'en fait, chaque année, à chaque livre, on recommence pas à zéro parce qu'on a quand même appris des choses et on a capitalisé en notoriété, en réseau, etc. Mais réellement, à chaque livre, j'ai l'impression de recommencer à zéro, mais de manière très positive, c'est-à-dire en me disant, oublions d'une certaine manière ce qu'on a fait jusqu'à présent et essayons de trouver autre chose à dire, d'autres choses à raconter et prenons le risque d'être à nouveau jugé. Et de repartir finalement un peu tout nu de ce qui s'est passé avant. Et j'ai la même angoisse à chaque fois. Je pense que c'est comme quelqu'un qui irait sur scène. Il a toujours le trac, chaque soir est différent de la veille, et il a l'impression d'apprendre son métier chaque soir.
Bien. Dans la rubrique commentaires... Bon. Alors... Le travail avec ta maison d'édition Presse de la Cité était important pour évoluer. C'est toujours facile de se remettre en question et d'accepter le regard et les corrections maintenant que tu en es à ton 4e roman.
Alors moi, j'ai l'immense chance de travailler avec une maison d'édition Presse de la Cité qui est vraiment super avec moi, qui me fait confiance, qui investit à tous les sens du terme sur mon travail. Donc voilà, je suis très reconnaissante. Cette année particulièrement, en passant d'ailleurs chez Presse Noire, en quittant aussi la collection Terre de France. Et donc c'est super. Et comme dans toutes les relations partenariales, et ben des fois il faut adapter son travail. Et d'une manière générale, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse écrire sans être humble. Parce que de toute façon, on offre son travail à tellement de monde potentiellement, que la probabilité que ça ne plaise pas, que ça ne convienne pas ou que des gens n'aiment pas, elle est importante. De la même manière qu'il arrive que l'éditeur veuille reprendre quelques trucs, il n'aimera pas toujours à 100% tout ce qu'on fera et c'est tout à fait normal. Donc on corrige, on progresse, on apprend, on écoute ce que les professionnels disent aussi, on écoute ce que les lecteurs disent Et on progresse et on apprend. Donc, c'est bien sûr que c'est pas le truc le plus agréable du monde quand on te dit que c'est pas terrible ou qu'il faut refaire ou qu'on peut faire mieux. Personne n'aime ça. Je crois qu'il y a aucun auteur qui n'aime ça. Mais ça fait vraiment partie du job et c'est comme un sportif de haut niveau. Il a un coach qui lui dit écoute, c'est pas assez, tu peux faire mieux et c'est comme ça qu'on progresse.
Alors, dans quel état d'esprit étais-tu lorsque tu as décidé de te lancer dans l'écriture de ton quatrième roman ?
J'étais très inquiète. J'étais très inquiète parce que j'abandonnais donc un cycle dans lequel finalement je m'étais bien sentie et sur lequel j'avais appris des choses, notamment le 19e siècle. Et j'entamais quelque chose où je changeais quand même pas mal. Je passais dans le contemporain, je mettais un poil d'humour et de ton un peu décalé. Je prenais une héroïne qui allait s'avérer être récurrente, puisque ça va être le cas de cette héroïne. Et tout ça, c'était des changements quand même assez importants pour moi. Je changeais d'époque, j'arrivais au 20e siècle, j'arrivais dans les années 60 et non pas le 19e. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, les gens sont beaucoup plus sensibles à l'exactitude de ce qu'on fait quand on parle de quelque chose qui n'est pas loin d'eux, et notamment par exemple les années 60. C'est finalement bien plus difficile pour moi de travailler sur du contemporain, ou en tout cas du 20e siècle, que du 19e. Donc au départ, j'étais très inquiète, je me suis dit « Oh là là, est-ce que ça va prendre ?» Et puis cette histoire de généalogie, est-ce que ça va prendre ? C'était vraiment un parti pris.
Donc tes trois premiers romans étaient indépendants les uns des autres, tant en termes de personnages, de géographie, que de période historique et d'industrie. Là, tu avais envie de changer un peu, de faire évoluer ta façon de concevoir tes romans.
Oui, j'avais envie d'essayer autre chose. C'est vrai que dans mes trois premiers au 19e siècle, je ne pouvais pas, dans mes enquêtes, utiliser n'importe quel moyen moderne que tous les autres utilisent dans leurs enquêtes naturellement. Et ça va être différent avec cette nouvelle trilogie et c'est différent avec Deuil de sel puisque là on est contemporain donc on ne peut pas ne pas vivre sans les téléphones, les smartphones, la géolocalisation, l'ADN, enfin bref, tous ces outils qui sont ceux d'aujourd'hui. Et c'est clair que c'était pour moi, c'était une façon de me mettre à niveau aussi sur ces sujets-là. Mais en même temps, je voulais les utiliser d'une manière un peu originale. Je ne voulais pas forcément rédiger une énième enquête avec des énièmes policiers torturés, avec la liste, tu vois, le circuit classique, je trouve le corps, j'étudie la scène de crime, je vais à l'autopsie, patati, patata, enfin, le truc habituel. Je voulais à la fois utiliser les moyens modernes, mais tout en restant dans ce qui faisait ma spécificité, c'est-à-dire ce rapport entre le passé et le présent. Et c'est là que la généalogie s'est imposée à moi.
Alors, on parle souvent de polar historique à propos de tes romans. C'est quelque chose que tu avais envie de garder, comme de toujours retourner vers le passé, toi.
Alors, j'aime l'idée d'une double temporalité. J'aime l'idée d'un passé et d'un présent qui se parlent et qui se répondent, parce que finalement, c'est une façon de ne pas se fier aux apparences. On regarde, et c'est le cas dans Deuil de sel, on regarde une situation à un instant T, et on va s'apercevoir en la regardant à T plus 1 et d'une autre manière que finalement ce qu'on croyait avoir compris n'est pas vrai. Et c'est ça que j'aime bien dans les doubles temporalités, dans ce rapport entre le passé et le présent, c'est que c'est une façon aussi de montrer que les apparences sont souvent trompeuses et qu'on ne juge une situation correctement que lorsqu'on y est, pas lorsqu'on est 100 ans plus tard ou 50 ans plus tard. Ou voilà. Donc j'aime bien le recours au passé, j'espère que je pourrai garder cette spécificité dans mes histoires.
On retrouve des personnages récurrents chez bon nombre d'autrices et d'auteurs. Tu avais, comme les autres, envie que tes lectrices et tes lecteurs aient aussi un personnage qu'ils pourraient suivre de roman en roman ?
Alors oui, j'avais envie pour eux, puis j'avais envie pour moi. Parce que finalement, c'est un exercice aussi nouveau pour moi que d'avoir un personnage qui, pendant ces trois histoires, puisque pour respecter ma règle des trois, Claire Le Vaillant aura trois aventures.
C'est une trilogie, tu vois.
C'est une trilogie. Hein. Et je voulais qu'elle puisse changer pendant cette trilogie. Je voulais qu'elle ait, elle aussi, une trajectoire de vie, qu'on suive sa transformation, puisqu'elle va se transformer pendant ces trois histoires. Et je voulais qu'on suive ça. Je voulais qu'on suive son retour, d'une certaine manière, à la vie, puisqu'elle commence en étant un petit peu déprimée. Et c'est ça que je trouvais chouette, cette espèce de progression d'une histoire sur l'autre. C'est sympa. Ah. Et c'était nouveau pour moi.
Alors comment crée-t-on un personnage récurrent et il te ressemble forcément un peu ?
Ah ben qu'est-ce que tu veux ? Oui, non, c'est probablement non, mais de tous les personnages que j'ai sur lesquels j'ai planché, c'est probablement celle bien sûr qui me ressemble le plus. Tu parles, elle a une petite cinquantaine, elle est en pleine ménopause, elle est solitaire, légèrement acariâtre.
Bon, elle est pas mariée. Hein.
Très obstinée, mais non, bah, c'est pas moi, hein, elle est pas mariée. Mais effectivement, j'ai mis en elle beaucoup des angoisses ou des fantasmes ou des lieux communs qu'on peut éprouver quand on est une femme d'une cinquantaine d'années, à la fois un peu experte dans ses sujets et en même temps tellement maladroite sur d'autres, tellement potiche sur d'autres. Et où on peut être à la fois brisé et en même temps où tout n'est pas perdu. Il y a plein de belles choses encore qui nous attendent. Et c'est en ça que cette héroïne, probablement, est celle qui me ressemble le plus. Ouais.
Alors, une fois de plus, le métier de ton personnage principal est important.
Il est très important et surtout, il n'est pas policier. Ouais. Et j'aime l'idée que finalement, il y a plein de boulots qui peuvent être des points d'entrée pour résoudre des enquêtes. Il y a plein de boulots autour de nous qui sont de bons points d'entrée pour résoudre des mystères. Un prof pourrait résoudre un mystère. Un avocat, bien sûr, bon, bah, ça c'est plus classique. Un généalogiste successoral, mais par exemple la DRH que j'étais, moi, dans ma vie d'avant, j'aurais très bien pu résoudre des mystères. D'ailleurs, j'en ai résolu quelques-uns. mais il y a plein de boulots où on peut résoudre des mystères intéressants et c'est ces boulots-là que j'aime bien aller chercher.
Avec toi, il est souvent question de retour vers le passé. Avec ton nouveau roman, tu voulais également retourner vers le futur sans utiliser la voiture du doc.
Ouais, sans utiliser la... C'était quoi ? C'était...
Retour vers le futur ?
Oui, bien sûr, c'était retour vers le futur. Mais
la DeLorean du doc.
Ouais, voilà, c'était ça.
Oui, la DeLorean. Ouais.
Et la musique de ZZ Top, si je ne dis pas de bêtises.
Entre autres, oui.
Et c'est vrai que dans ce retour vers le futur, ce qui fait le lien entre le passé et le présent, c'est finalement des traces planquées ici ou là autour de nous, qu'on arrive à retrouver si on les cherche et qui nous racontent les secrets du passé.
Alors pour tes trois premiers romans, tu étais en terrain conquis puisque l'Ain, la Lozère et la Meurthe-et-Moselle sont trois départements que tu connais bien. Tu avais besoin de découvrir une autre région que tu connais peu ou pas. Ça faisait partie de ton nouveau cycle d'écriture aussi ?
Complètement. Ça faisait partie des challenges que je m'étais fixé pour Deuil de sel. Je m'étais dit, à un moment donné, il faut arrêter d'écrire sur ce que tu connais parce que forcément, ça trouve ses limites.
Quand on connaît bien la France, non ?
J'ai pas vécu partout non plus.
C'est bon.
Highlander, tu sais, la fille, c'est Highlander et ça fait 200 ans qu'elle vit partout, elle fait tous les départements.
Mais c'était pas le cas.
Non, c'était pas le cas. Et donc, à un moment donné, j'étais sèche, quoi. Je me suis dit, mais où est-ce que je vais aller ? Et j'ai cherché. Et en fait, de retour d'un salon en Alsace, un salon du livre en Alsace, à Saint-Louis, je rentrais chez moi en Seine-et-Marne et j'ai vu que sur le chemin, il y avait un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai fait une escale pour visiter donc, la Grande Saline de Salins-les-Bains. Je ne connaissais pas Salins-les-Bains. Et cet endroit, cette ville, cette histoire m'ont émue, frappée, vraiment touchée. Et j'ai passé une nuit là-bas pour m'en imprégner mieux. Et quand je suis rentrée le lendemain, je me suis dit, ok, ma prochaine histoire est là-bas, c'est parfait. Okay. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Salins-les-Bains.
Alors, qu'est-ce qui a changé entre l'écriture des trois premiers romans, et le dernier en date, tant en termes d'organisation que de temps passé, par contre, voilà.
Franchement, pas grand-chose.
T'as continué à travailler comme tu l'avais fait pour tes trois premiers romans.
Oui, alors j'étais juste un peu à la bourre pour celui-là, parce que tout d'un coup, je me suis fait avoir dans mon planning, c'est que j'avais pas mesuré. J'ai écrit cette histoire donc en 2023, fidèle à mes deux années de décalage. C'était la première année de la sortie de Marque de Fabrique, en fait, et j'avais pas mesuré le poids de la promotion. J'avais pas mesuré le poids des salons, des déplacements, des dédicaces, et même des échanges, des interviews, des trucs comme ça. Et donc, ça m'a fait prendre du retard. Donc, je me suis dit, l'année d'après, il faudra pas que je me fasse avoir. Il faudra que j'anticipe mieux, que je me prépare mieux. Donc, peut-être que ce qui a été différent, c'est que j'ai été un peu en retard. Parce que c'est la première année 2023 où j'ai fait coïncider l'écriture d'un livre comme Deuil de sel et la sortie, voilà. La sortie véritable nationale d'un autre. Et faire coexister dans l'esprit et dans l'agenda deux temporalités et deux projets complètement différents, ça s'apprend. Voilà. Donc j'ai appris ça.
Alors, le résultat de ce travail d'écriture est la parution le 19 mars 2026 aux éditions Presse de la Cité de ton quatrième roman « Deuil de sel », non dans la collection « Terre de France » mais dans la collection « Presse de la Cité noire ». Alors ce changement de collection est important ?
Alors oui, il est important, bien sûr.
C'est toi qui l'as demandé ou c'est...
Ça m'a été proposé par la maison d'édition. D'accord. Et j'ai bien sûr dit oui parce que ça sonne comme une sorte de confiance. Mmh. Je ne vais pas dire de promotion parce que ce ne serait pas gentil envers la collection Terre de France qui est extrêmement lue, extrêmement lue, extrêmement solide et qui est une école d'apprentissage qui est vraiment formidable. Mais effectivement, c'est une chance différente d'être découverte par des gens qui se focalisent un peu plus sur la thématique du polar. Ce qui n'était pas forcément le cas quand on sort chez Terre de France, en tout cas en broché. Mmh. Alors mes poches sortaient chez 10-18, donc ça donnait quand même le ton. Mmh. Mais effectivement, pour un broché, être dans une collection qui affiche sa couleur noire, hein, ça permet aussi d'accéder, bien sûr, à des salons différents, peut-être à des lecteurs différents qui sont plus portés sur le noir ou plus spécialisés. Et c'est pour ça que cette année, je fais plus facilement Quai du Polar, 100% Polar à Saint-Chef, Escargot Noir à Sens, Polar Lance, voilà. Et ça, c'est aussi du fait que la collection est marquée Polar.
Ah oui. Alors, peux-tu nous raconter l'histoire de ce deuil de sel sans trop en dévoiler ? Bien évidemment, même
bien
si
sûr.
Tu racontes beaucoup de choses dans la quatrième de couverture quand même. Oui.
Deuil de sel est un roman en deux parties, donc qui sont dans le livre, hein, parce que des fois les gens me demandent, mais il y a un deuxième livre, tout est dans le même livre. Ah oui. Donc c'est un roman en deux parties, une première partie qui se passe dans les années 60 à Saint-Lain-les-Bains, petite ville thermale du Jura, où normalement il ne se passe jamais rien, mais où cet été-là, l'été 1960, il se passe quelques trucs un peu bizarres, des disparitions d'animaux, la disparition d'une jeune fille, le suicide d'une dame. Et c'est le curé qui va mener l'enquête sur ces étranges histoires, parce que finalement, il sait plein de trucs, compte tenu du fait que ces ouailles se confessent à lui. Et puis, un coupable va être arrêté. Et ensuite, la deuxième partie du livre nous amène 65 ans plus tard, où une généalogiste successorale, ce sont ces gens qui sont en quête d'héritiers pour des successions, voit son enquête l'emmener à Saint-Lain-les-Bains et croiser celle du vieux curé de 65 ans plus tôt. Et où on va s'apercevoir à travers l'enquête donc, de cette généalogiste que ce qu'on a cru comprendre dans la première partie, ce n'était pas tout à fait ça. Et c'est elle qui va reprendre finalement ce qui est devenu depuis un cold case. Voilà, donc ambiance années 60, cold case, généalogie et double temporalité.
Deuil de sel a été préfacé par Éric Foissier. Alors, qui en est à l'initiative ? Comment ça marche ?
Alors, je ne sais pas comment ça marche,
ouais,
mais
comment ça
a marché pour moi ?
Comment ça s'est fait ?
Comment ça a marché pour moi ?
Voilà.
Eh bien, j'ai rencontré Éric Foissier, dont j'aimais beaucoup le travail, bien sûr. Je l'ai rencontré l'année dernière, c'était au Salon de Montaigu, on a fait une conférence ensemble et on s'est vraiment très très bien entendu parce que outre le fait qu'il connaissait un peu mon travail et qu'il aimait bien ce que je faisais, moi je connaissais bien sûr le sien, c'est quand même Éric Foissier. Mais au-delà de ça, on a des façons de fonctionner assez comparables, c'est-à-dire avec une double culture scientifique et juridique. Mmh. Qui je pense se voit dans notre façon de travailler et on a beaucoup papoté, on a bien sympathisé, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des façons communes de concevoir les histoires, de les imaginer, de les inventer, de les mettre en valeur et on a été assez complices. Et mon éditrice qui a remarqué ça lui a fait lire, je ne le savais pas, lui a fait lire les épreuves non corrigées de Deuil de sel pendant que j'étais en vacances. Mmh. Et elle lui a dit est-ce que vous seriez ok si vous aimez bien pour au départ, c'était juste un petit mot en bandeau. Il a dit, mais je vais faire mieux que ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, si vous êtes OK, je fais une petite préface. Donc, bien sûr qu'on a été OK. Et c'est très, très généreux de sa part, très gentil. Et je l'en remercie beaucoup.
Donc, c'est un argument de vente, certes, avec le bandeau rouge hein, qui va bien et où il est écrit, je cite, « Un talent rare, une plume assassine. » C'est aussi une certaine reconnaissance. Celle d'un expert en polar historique, Éric Foissier, en est un.
Oui, alors c'en est un. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en termes de polar historique, français, c'est le plus gros vendeur. Hein. C'est le plus connu. En plus, il est extrêmement prolixe. Il sort tous les ans. Il a des héros récurrents super que sont Valentin Verne et son fameux bureau des affaires occultes. Mais il fait aussi. Il a donné dans plein de périodes historiques différentes, hein, pas seulement le 19e. Oui. Également dans le 20e avec son Requiem pour la Dame Blanche qui sort en poche là, cette année, qui est super aussi. Et non, c'est clairement une référence. Et ce n'est pas qu'une référence en termes de vente, de succès et de notoriété. C'est aussi pour moi. Hein, une référence en termes de qualité de travail. Dans une conférence où on était ensemble, il a dit « il ne peut pas y avoir de feignant dans le polar historique de cette manière-là ». Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il a un amour du travail bien fait, du travail laborieux. Et on partage vraiment ça. Donc pour moi, c'est la reconnaissance de quelqu'un qui est un professionnel, un vrai professionnel, un artisan de son travail, tel que moi je me le figure et tel que moi j'essaye de l'être ou de le devenir. Et c'est pour ça que sa reconnaissance m'a fait doublement plaisir. Ouais. Pas seulement d'auteur à auteur, mais véritablement d'artisan à un apprenti artisan qui apprend et à qui quelqu'un dit tu es sur la bonne voie.
Le fait qu'il vienne du monde scientifique et qu'il fait des études scientifiques, un peu comme toi, un peu.
Oui, alors mieux que moi, hein, parce qu'il a quand même deux doctorats, dont un en pharmacie.
Mais quand même, quoi, il y a.
Mais oui, on a ce goût commun pour les choses. Pour la science et le mélange science et juridique. Mmh. Voilà. Et on a tous les deux des origines scientifiques, ce qui, dans le monde de la littérature, n'est pas le plus répandu.
Ouais. Alors, tu as dédicacé Deuil de sel à ta fille Emma, qui, je cite, t'impressionne.
Oui, c'est vrai, elle m'impressionne.
Alors, elle a joué un rôle particulier dans la participation et l'écriture de ton nouveau roman ?
Non, pas du tout.
Pas du tout,
mais celui-ci, j'avais envie de le lui donner. Bon, d'abord parce que c'était son tour, hein. Après mon mari, mes parents, mes grands-parents, elle commençait à râler et à trouver que
même... C'est vrai ? Elle te l'a dit ?
Ouais, mais dis donc, maman, quand même, tout le monde y a droit, et moi...
Donc, ouais, elle donnait son avis aussi ?
Sur le livre ? Non.
Sur les livres d'avant ?
Non.
Ah bah c'est pour ça.
Non, elle ne me donne pas son avis.
Ah bah c'est pour ça.
Mais voilà, non, ça me faisait plaisir de lui dédicacer celui-ci. Et c'est vrai que j'ai une fille super, elle va avoir 26 ans. Et ouais, elle m'impressionne beaucoup.
Bien. Alors, Deuil de sel se déroule en majeure partie à Salins-les-Bains, dans le Jura. Salins signifie qui est formé, qui renferme du sel. Alors, comme saunier, hein, ancien métier lié au sel et qui fait penser évidemment à. On ne le sait peut-être pas forcément, mais allons se saunier.
Et oui, parce que ce que les gens ne savent pas, ce que j'ignorais moi-même d'ailleurs avant de débarquer à Salins-les-Bains, c'est que sous le Jura, 250 mètres sous les montagnes, il y a une mer souterraine qui est la plus salée du monde. Degré de salinité maximum. Au-delà, le sel n'est plus soluble. Et en fait, cette mer souterraine préhistorique sortait par résurgence par-ci par-là depuis le Moyen-Âge. Et on a compris l'existence de cette mer et comment la forer depuis le 19e. Et on la fore, on en tire une saumure qui remonte donc des 250 mètres. Et qu'à l'époque, on faisait sécher, puisqu'il n'y avait pas de soleil, dans des grandes poêles gigantesques. Pour fabriquer un sel pour la consommation qui s'appelait le sel du lion. Et effectivement, beaucoup de gens vivaient de cette production de sel. C'était les sauniers de la montagne donc, qui tiraient ce sel. Et c'est effectivement pour ça que cette zone du Jura a produit du sel. Ce qui est assez étonnant, la plupart des gens me disaient « Ah bon, on produit du sel dans les montagnes ? » C'était des carrières ? Pas tout à fait, c'était des mers, une mer intérieure, une mer souterraine. Dans laquelle on puisait la saumure et qu'on continue de puiser aujourd'hui parce que la saline a fermé en 62 pour sa production de sel. En revanche, on a continué à tirer la saumure pour les thermes notamment.
Ah oui. Alors donc, tu fais référence au saunier, encore un métier très dur. Ah oui, qui fait penser à ceux que l'on retrouve dans Marques de Fabrique ou Dur comme fer. On n'est ni à la fin du 19e siècle, ni au début du 20e, mais au début des années 60. Et à la toute fin des Salines, la période et les lieux se prêtaient bien pour un tel roman.
Oui, et puis alors, moi, c'est vrai que dans cette trilogie qui s'ouvre avec Deuil de sel et qui va parler des années 60, des 30 glorieuses en général, j'ai à cœur de montrer qu'elles n'ont pas été que glorieuse, en tout cas qu'elle n'était pas que glorieuse. Bien sûr, aujourd'hui, on nous les vend comme la panacée de l'économie heureuse et du capitalisme heureux. Et c'est vrai qu'on y a beaucoup progressé dans plein de domaines de qualité de vie. Mais en même temps, les années 60, je ne suis pas sûre qu'on ait envie de vraiment y retourner. Hein. Les années 60, c'est la fin d'une crise du logement des années 50 qui a été épouvantable. C'est des conditions de vie pour beaucoup de gens qui sont encore terribles. C'est la polio qui frappe, c'est les guerres de décolonisation. Je ne suis pas sûre que les jeunes de 20 ans aient bien envie de retourner dans les années 60 où on partait en Algérie. C'est des conditions de la femme, de vie de la femme qui sont encore gratinées. Et c'est des conditions de travail qui sont encore quand même assez, assez dures. Donc, d'une manière générale, pendant les aventures de Claire Le Vaillant, qui commence là avec, avec Deuil de sel, je vais un petit peu détricoter l'idée que c'était beaucoup mieux avant. Parce que c'est pas vrai. C'était pas beaucoup mieux avant. Et en tout cas, je pense qu'il y a un paquet de gens qui n'échangeraient pas leur vie d'aujourd'hui contre la vie de 1960. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je mets en valeur et en évidence, comme d'habitude dans mes histoires, le travail difficile, beau, mais difficile des sauniers de la montagne.
Et puis tu parles d'années pas forcément glorieuses. Saint-Alain-les-Bains, eux, ils en savent quelque chose, hein. Les années 60, c'était le début un peu de la fin chez eux.
Bien sûr.
C'est ça. Hein,
alors, effectivement, ce qui est intéressant aussi dans les années 60, et ce qui va m'accompagner aussi, et ce qui est le cas à Saint-Lin, c'est ce contraste, dont j'espère qu'il se voit, entre une époque effectivement plutôt riche, plutôt prospère, et une époque déclassée, d'une certaine manière. Parce que les années 60, c'est aussi le début de la désindustrialisation, celle sur laquelle on pleure aujourd'hui. Elle a commencé dans les années 60 et elle a commencé avec la grande consommation, d'une manière générale, où on s'est mis tout d'un coup à pouvoir fabriquer des trucs en plastique.
La société de consommation.
La grande société de consommation, elle commence là et elle tue nos savoir-faire industriels, elle tue notre tissu industriel. Les désastres écologiques commencent à cette époque-là. Les grands désastres écologiques commencent à cette époque-là. Les pollutions sur lesquelles on ne reviendra pas, enfin, toutes ces choses-là. Et une certaine uniformisation des talents, à mon avis, commence aussi tout doucement à cette époque-là, où les filles rêvent toutes de devenir sténodactylo au lieu de faire tout un tas des métiers très variés qu'on avait avant. Donc, c'est aussi les années 60. Après le cycle sur l'industrialisation, les années 60, c'est le début de la désindustrialisation qui va se poursuivre jusque dans les années 80-90, où vraiment là, ça sera le pompon. Et on n'arrive pas à revenir sur ces savoir-faire. Aujourd'hui, on dit qu'il faut réindustrialiser, mais ça va être difficile. Hein.
Bah, pour le dire, il faut les moyens, puis il faut les faire surtout.
Ah ouais, et puis bien sûr, et puis dans un monde mondialisé, parce que c'est ça aussi les années 60, c'est le début de la mondialisation, la vraie. C'est le début où tout d'un coup, c'est bien plus rentable d'acheter le fer. Ça commence avec dur comme fer, mais dans les années 60, c'est bien plus rentable d'acheter le fer dans les mines africaines, et c'est pour ça qu'on va commencer à fermer nos mines Lorraine. C'est bien plus rentable d'aller produire des trucs ailleurs. Et, très bien, mais aujourd'hui on pleure de ne plus avoir aucune autonomie sur rien et pas vraiment beaucoup de propositions à faire aux jeunes en termes de beaux métiers.
Ouais. Alors le fait qu'une partie de l'histoire se déroule dans les années 60 est forcément plus facile du côté des recherches que tu as dû mener.
Ah non, ça c'est super difficile. Hein. C'est beaucoup plus facile de travailler sur le 19e siècle que sur les années 60. J'ai vraiment galéré pour les années 60. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la plupart des archives, enfin beaucoup des archives, ne sont pas accessibles, déjà de une. Il a fallu que je triche. parce que beaucoup d'archives récentes sont protégées. Alors que le 19e siècle ne l'est pas.
Oui, c'est plus de 100 ans, c'est ça?
Ouais, plus de 75 ou 100 ans, suivant effectivement les sources. Ouais. Ensuite, parce que dans les archives, par exemple, départementales, tout ce qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale est super bien rangé, super bien référencé. Dans des séries, on appelle ça des séries. En revanche, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ils ne se sont plus embêtés. Ils ont tout mélangé dans une série qu'on appelle dite moderne, la série W. Et alors, ils ont tout mis dedans pêle-mêle. Donc, pour retrouver des trucs... Et c'est très mal référencé. Donc très très dur de retrouver des archives de ces années-là. Très compliqué. En plus, bizarrement, il y a beaucoup moins d'iconographie de ces années-là qu'on ne l'imagine. Et beaucoup moins qu'au 19e. Au 19e, au début 20e, c'est blindé de cartes postales partout, de photos partout. Finalement, à partir des années 60, pas tant que ça. Donc je me suis débrouillée avec ce que je pouvais. Des journaux, des archives quand même, bien sûr. Et... ça, en revanche, c'est une nouveauté pour moi, rendue possible par cette année-là. Bah, j'ai passé du temps dans les EHPAD, et notamment dans les EHPAD de la région, EHPAD de Bracon notamment, pour discuter avec des pensionnaires qui étaient jeunes, qui étaient ados, en gros, dans les années 60, de me parler de leurs souvenirs des années 60. Et finalement, c'est grâce à eux que j'ai pu tisser un décor et des modes de vie au plus proche du réel.
À Salins-les-Bains, il y a une rivière qui s'appelle La Furieuse. Mmh. Rien que le nom donne envie d'écrire un polar,
mais
pas loin
complètement,
de ce cours
d'eau. Mais complètement. Et donc, quand j'ai fait cette fameuse escale à Saint-Lin, là, de retour de Saint-Louis en Alsace, et que j'ai vu donc, la Saline, j'ai vu l'ancien casino qui s'appelait le Par-dessus, parce que c'est là qu'on mettait les directions. Donc, c'était par-dessus, hein, les ouvriers qui étaient par définition dessous. J'invite les gens à découvrir cette cathédrale souterraine fabuleuse qu'est la Saline. En plus, la ville de Saint-Lin, elle est coincée comme ça. C'est une ville crevasse entre deux forts. C'est vertigineux. Et je découvre cette rivière, la Furieuse. Et je me dis, ah mais non, mais tout est là. Tout est là. Et c'est pour ça que j'y suis retournée et que j'ai mis cette histoire ici.
Alors, la deuxième partie dans ton roman, celle avec Claire Levaillant, débute en 2025. Mmh. Elle est lyonnaise et a dépassé la cinquantaine. Il ne manquerait plus qu'elle ait des lunettes, qu'elle soit brune et conduise. Et on pourrait croire que c'est toi.
Oui, on pourrait. Mon mari dirait que son côté acariâtre et psychorigide me ressemble drôlement.
Mmh. Voilà. Mais toi, tu pourrais dire... toi, tu t'appelles Junior.
Ouais, je pourrais, mais non.
Tu
mais
pourrais,
non.
Mais non.
c'est pas tout à fait le même genre.
Il s'est pas reconnu.
Non, pas vraiment, non. Pas là.
Et conduit.
Ah oui, conduit. Voilà. Et moi aussi, je conduis, heureusement. Hein.
Alors, dans Marc de Fabrique, l'un des personnages principaux était une femme, Claudine Tardy, inspectrice du travail. Dans Deuil de sel, le personnage principal est aussi une femme. C'est plus simple pour toi d'écrire les aventures d'une femme, même si le personnage principal est une femme, comme toi, a le même âge que toi, les mêmes origines géographiques que toi. Enfin bref, c'est plus facile.
Pas vraiment, c'est ni plus facile ni plus difficile. Et dans Dur comme fer, par exemple, j'ai écrit sur des hommes plutôt. Là, je suis en train de préparer des suites où il y a pas mal d'hommes aussi et où je parle beaucoup pour eux. Non, j'ai pas l'impression de devoir me cantonner d'une certaine manière à me mettre à la place d'une femme. Je me sens capable de me mettre à la place de ça reste des histoires, donc c'est pas moi. Je peux me mettre à la place de garçons, de filles, de jeunes, de vieux. C'est pas vraiment un sujet. En revanche, j'avais envie d'explorer la cinquantaine féminine, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est pas parce que c'était plus facile, c'est parce que je pense que c'était plus intéressant. Je pense que la cinquantaine chez les femmes est un bouleversement de mille manières, qui est d'un point de vue romanesque, hein, intéressant à étudier. Voilà, plus que les bouleversements des garçons à 50 ans.
Tu as choisi comme personnage principal donc qui enquête une généalogiste successorale. D'où est venue l'idée d'un tel métier, toujours ce rapport à l'histoire, tout du moins au passé?
Alors, j'ai une anecdote pour expliquer ça. C'est que mon père est décédé en 2012. Et à cette époque-là, on doit vendre une vieille maison qu'il avait achetée en Lozère. Et on se rend compte à l'occasion de la mise en vente de cette maison qu'en réalité, il y a une partie au milieu de la propriété qu'on ne possède pas, contrairement à ce qu'on imaginait. Parce que, en fait, personne n'avait jamais su, y compris depuis l'achat de mon père et même l'achat du type d'avant, personne n'avait jamais su à qui appartenait cette petite parcelle qui faisait quand même la cour intérieure de la maison. Donc c'était quand même embêtant. Et le notaire et l'agent me disent « Écoutez, c'est quand même difficile de vendre la maison sans être propriétaire de la parcelle de la cour intérieure. » Et je dis « Mais il faut qu'on l'achète alors. » Mais on ne sait pas à qui l'acheter parce qu'on ne sait pas depuis de mémoire humaine du tout à qui ça appartient. Et le notaire me dit, bah, écoutez, à ce moment-là, il faut prendre un généalogiste successoral. Il va nous retrouver à qui appartiennent ces parcelles aujourd'hui. Bon, ça avait l'air cher, hein. Donc je lui ai dit, vous savez quoi, on va le faire nous-mêmes. Et nous voilà partis, le notaire et moi, à chercher l'historique de cette parcelle. On est remonté jusqu'à la fin du 19e pour retrouver l'ancien propriétaire, M. Quatrebras. Et ensuite, on a reconstitué toute sa généalogie à ce monsieur, parce que bien évidemment, il était mort depuis très longtemps. Toute sa généalogie pour retrouver, pas moins, alors si ma mémoire est bonne, de 17 héritiers aujourd'hui, qui possédaient entre un quart et un 24e de la parcelle. Il y avait des gens sous tutelle, il y avait toutes les combinaisons possibles et imaginables. En plus, il avait fallu faire des calculs parce qu'avant 72, les enfants naturels n'héritaient pas comme les enfants légitimes. Bref. Et on a réussi quand même à retrouver tous ces gens, parce qu'après... c'est pas le tout de connaître leur nom, il faut les retrouver pour de vrai et leur faire signer les papiers. Et c'est ce qu'on a fait et on a réussi à vendre, à acheter cette fameuse parcelle et à vendre la maison. Mais cette aventure m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, mais quelle incroyable histoire. Et surtout, j'avais trouvé ça génial en fait. Ça avait été comme une chasse au trésor. Et puis, ça avait traversé la grande histoire. Ça avait traversé les évolutions juridiques aussi de notre société. ça avait traversé des histoires de famille où il s'était fâché, plus vu, machin. Et je suis sortie de là en me disant, mais c'est un merveilleux personnage de roman que de faire ça. C'est super. Si un jour j'écris...
Tu t'étais dit ça à l'époque?
Ouais.
Ah oui,
ouais.
Déjà.
Je m'étais dit, si un jour j'écris, je pense que c'est une bonne idée.
Donc, vers qui t'es-tu adressée pour te renseigner sur le métier si particulier de généalogiste successoral? Parce
alors, d'abord, mon fameux notaire, ouais. Hein, qui m'a beaucoup aidée. Et puis ensuite, des généalogistes même. Alors, c'est pas facile à trouver. D'abord, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont 800, 900 en France. Et puis, ils cultivent un petit peu le secret. Leur métier, c'est aussi un métier de discrétion. Donc, c'est pas forcément évident de leur mettre la main dessus. C'est pas forcément évident de les faire parler. Mais j'en ai rencontré quelques-uns. J'ai passé du temps. Je les ai écoutés. Et j'ai essayé de rendre compte de cet engagement que j'ai trouvé, qui m'ont partagé leurs anecdotes, leurs difficultés. Et voilà, donc j'ai travaillé le plus sérieusement possible. Alors, je ne le suis pas moi-même, et encore une fois, ce n'est pas non plus un travail de recherche. Ça reste un roman. De la même manière que quand on écrit sur des policiers, des avocats ou des journalistes, c'est quand même très romancé. Hein. Ce n'est pas la vérité brute, pure, simple. Bon. Mais quand même, j'ai essayé d'être au plus proche de ce qui était réel et plausible.
Alors, Claire Levaillant se voit imposer par le commanditaire de la recherche successorale un assistant surnommé Junior. On se demande au début qui a le moins envie de travailler avec l'autre.
Oui, c'est deux générations qui, effectivement, ne se parlent pas. C'est symbolique. Hein. C'est finalement aussi ce rapport qu'on a avec le passé, le moderne, le présent, deux générations distinctes, deux périodes distinctes. Et pourtant, même si on a des styles différents, on peut être mu par les mêmes émotions et les mêmes soifs de vérité et de justice. Et c'est ce qui va se passer. C'est que finalement, tout en étant excessivement différents, ils vont progressivement se rejoindre sur l'envie de comprendre et l'envie de savoir. Et cette curiosité-là, elle n'a pas de frontières ni générationnelles, ni d'âge. Et c'est ça qui va les faire se retrouver et bien collaborer ensemble. Mais l'intérêt d'avoir deux personnages si différents et qui n'ont pas envie, bien sûr, de passer du temps l'un avec l'autre au départ, c'était aussi, bien sûr, un ressort pour glisser un petit peu d'humour et un petit peu de décalage, ce qui est une nouveauté pour moi.
Alors, une complicité va vite naître entre Junior et Claire Levaillant. On peut presque parler de relation mère-fils entre ces deux personnages.
En tout cas, oui, quelque chose de cet ordre, quelque chose d'un peu familial. D'ailleurs, elle va se décréter progressivement sa marraine, d'une certaine manière, parce que lui est en manque de parents et qu'elle, elle n'a pas d'enfant. Et que bien qu'il pense ne pas avoir besoin de figure maternelle ou en tout cas de figure d'adulte à laquelle se référer. Et elle pense pas non plus avoir besoin de qui que ce soit. Et finalement, ils vont s'apercevoir que si, c'est quand même mieux quand on se constitue une famille. Mais en tout cas, c'est ma conviction personnelle à moi. C'est que, et c'est aussi l'histoire de ce couple Junior et Claire, c'est que on peut choisir sa famille. On n'est pas obligé.
Pas comme les amis, ouais. Voilà.
Oui, mais on n'est pas obligé. Moi, mon père était mon père adoptif, par exemple. J'ai toujours su qu'on pouvait s'aimer infiniment, indépendamment des liens du sang. J'ai toujours su qu'on pouvait choisir sa famille, qu'on pouvait choisir des fois de ne pas être avec son père ou sa mère s'ils sont toxiques. Toujours su qu'on pouvait choisir des gens qui nous servaient de manière intelligente. Et c'est ça aussi que je veux montrer dans cette histoire. C'est des histoires de gens qui se choisissent et qui choisissent ensemble de faire une sorte de famille, une sorte de tribu, bien que très différent. Mais finalement, ils se choisissent plus que ce que la vie avait choisi pour eux, en tout cas l'ADN avait choisi pour eux.
Alors Claire Levaillant recherche le ou les héritiers d'une femme riche décédée à Lyon et dont la mère s'est suicidée en 1960 à Saint-Germain-les-Bains. Une enquête complexe qui va croiser certains personnages de la première partie, dont le curé, le beau-père Roche. Enfin, d'après les femmes, elle va mener une véritable enquête policière. Généalogiste successoral nécessite une grande passion pour la recherche, ainsi qu'une âme d'enquêteur, comme inspecteur du travail, juge de paix, lieutenant de louveterie ou journaliste.
Absolument, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je m'intéresse à des métiers qui cherchent à qui cherchent à faire avancer les choses là où ils sont.
C'était le cas dans les trois autres.
Et c'était tout le temps le cas, mais c'est sans être pour autant des policiers en tant que tels.
À part peut-être un peu juge de paix. Ou
oui, bien sûr, un peu juge de paix. Puis dans la prochaine aventure de Claire, un policier va l'aider. Ah. Voilà. Il sera question un peu plus de policiers. Mais j'aime bien l'idée, effectivement, d'aller chercher des gens comme toi et moi. Peut-être que toi aussi, là où tu es, tu pourrais résoudre des choses. J'ai croisé pour préparer mes livres des archivistes. Des archivistes peuvent résoudre des choses, des historiens peuvent résoudre des enquêtes. Des tas de gens peuvent en tout cas être, à un moment donné, peuvent croiser un mystère et vouloir le résoudre. Voilà. Et leur métier le leur permet. Parce que leur métier va leur donner accès à des informations que pas les autres. Et c'est vrai de plein de métiers. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher finalement autour de moi les gens qui ont les moyens, sans le savoir, d'entrer dans l'intime et dans les mystères des autres.
Alors les recherches que va mener Claire Levaillant l'amènent évidemment jusqu'à Salins-les-Bains. Et au début des années 60, il te fallait forcément des personnages encore vivants 65 ans après. On pense bien évidemment à des résidents d'un EHPAD. Tu en as parlé tout à l'heure, tu avais besoin de bien plus que ce que racontent les historiens et les journaux de l'époque.
Oui, et puis...
Qu'est-ce qui te manquait comme information, en fait?
La vie quotidienne.
Ouais.
Par exemple...
Dans la presse, tu ne l'as pas forcément
trouvé. Non, par exemple, je te donne un exemple, toi qui as lu le livre, sans spoiler du tout.
Non.
Mais au début, donc, la petite jeune fille qu'on va suivre, sa mère travaille dans un salon de coiffure. Et il y a plein de choses autour de ce salon de coiffure, finalement, qui vont se décanter. Et il y a plein de détails autour de ça. Le papier pointe pour les permanentes, le doigt, ce doigt un peu crochu de sa mère qui lui fait honte et qui fait qu'elle ne veut pas devenir coiffeuse à son tour, etc. Tout ça, c'est une résidente de l'EHPAD de Bracon qui m'a raconté ses souvenirs d'enfance où sa mère était coiffeuse à Saint-Lin. Et tout ça, tous ces détails-là, ce sont les siens. Sans elle... Je crois que j'aurais pas eu cette idée qui s'est avérée être une très bonne idée. Et j'ai plein d'exemples comme ça dans ce livre qui viennent des témoignages des gens. La double sonnerie, par exemple, de l'usine des faïenceries qui rythmait tellement la ville au point que les animaux domestiques et notamment les chats réagissaient à cette sonnerie pour aller chercher leur maître. C'est une histoire vraie qui m'a été racontée aussi. Et c'est très bien de la mettre dans le livre. Et il y a vraiment plein d'anecdotes. Qui sont issus des souvenirs des gens de Salins.
Donc en fait, tu leur demandes de raconter leur vie et tu les écoutes.
Je les écoute.
Et tu en retiens ce que tu veux.
Oui. Et je trouve très important d'écouter. On n'écoute pas assez les personnes âgées, elles ont vraiment des tas d'histoires incroyables à raconter. Et moi, ça me fait plaisir de passer du temps à les écouter et de faire quelque chose de ce qu'elles disent.
Et est-ce que tu as des retours de ces personnes
Pas encore, mais je vais les voir ce week-end. Je vais leur apporter le livre ce week-end.
Alors, vu la complexité de l'enquête menée par Claire Levaillant, parce qu'elle est complexe, je trouve, l'enquête, et pour éviter les erreurs et les invraisemblances, il a fallu que tu travailles plus que d'habitude ton plan et tes personnages.
Non, je déroule ma méthode. Donc,
est-ce que tu trouves que ton enquête est plus complexe que d'habitude?
Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que comme la partie descriptive pure est moins forte, elle est plus faible que d'ordinaire. Il y a plus d'action, peut-être plus de rebondissements. Plus de rebondissements et d'action. C'est vrai que comme la partie descriptive est moins forte, il y a plus d'action, il y a plus forcément d'étapes dans les rebondissements que lorsque tu as, j'exagère, mais si tu as 5 rebondissements principaux et le reste de description, c'est pas pareil que si tu as beaucoup moins de descriptions et 15 rebondissements. Voilà. Mais là, on est quand même dans un polar un peu plus classique, avec un peu plus de rebondissements et effectivement peut-être un peu plus de complexité, mais bon, a priori, pour l'instant, tout le monde a compris.
Alors, comme indiqué sur le quatrième de couverture, Deuil de sel est la première enquête de Claire Levaillant. C'est le premier d'une trilogie, il me semble, c'est même sûr. Junior emmènera Claire où et dans quel milieu industriel, on l'espère, pas en voie de disparition. Je propose du sel.
ils sont presque tous en voie de disparition.
Oui, c'est pour ça.
Alors l'année prochaine, on ira sur les bords de Loire, du côté de Saint-Just-Saint-Rambert, et on ira parmi les verriers, les souffleurs de verre, une technique de soufflage qu'on appelle la technique du manchon. Je ne sais pas si tu connais, mais ça consiste à former par le soufflage des longs cylindres qu'ensuite on ouvre pour faire des plaques. Et c'est ces plaques de verre qu'on utilisait et qu'on utilise toujours, par exemple pour la rénovation des cathédrales, des vitraux, des choses comme ça. Et c'est une spécificité qui n'existe plus que là. Les derniers souffleurs à le faire encore vivants sont là-bas, sont à Saint-Just-Saint-Rambert. Je suis allée les voir et passer du temps avec eux. Et je veux raconter l'histoire des verriers, donc des bords de Loire, et notamment donc des verriers au Manchon, des souffleurs au Manchon, qui est une spécificité. Mais bon, d'une manière générale, des verriers, qui est un très beau matériau et un très, très beau métier. Vraiment, c'est magnifique à voir.
Ouais. Qui dit bord de Loire, dit vin de Loire aussi.
Voilà. Ouais, vin de Loire. Mais moi, je vais là où il y a du vin. Hein, tu l'as noté, du vin. Et dit aussi barrage, puisque l'histoire se passe au pied du barrage de Grandjean. Parce que les années 50-60, c'est aussi les années de l'autonomisation énergétique française. Hein. C'est le début, ça a commencé déjà avant. Oui, mais c'est les grands barrages, ouais. C'est le début des grands travaux sur les centrales nucléaires, etc. Et ça aussi, c'est intéressant d'un point de vue romanesque, cette transformation des paysages qui date de cette époque-là, et notamment la vallée de la Loire qui est noyée à l'époque du barrage de Grandjean. De là, à essayer d'imaginer ce qui a pu s'y noyer, et par ailleurs, ce qu'on a pu vouloir dissimuler aussi,
ah oui.
Il n'y a qu'un pas.
Ça me ferait penser au barrage de Vouglans, par exemple.
Par exemple.
Ou au dernier bouquin de Pierre Lemaitre, ou l'avant-dernier, je ne sais plus.
Oui, ou même, c'est un thème récurrent, hein, le Surface de Norec avait aussi quelque chose à voir avec un... Voilà, moi j'ai grandi, tu sais, en Lozère, à Langogne, et à Langogne, on a tous vécu le barrage de Nossac, qui était un barrage de ces années-là, un peu plus tard. Ça a été le dernier de ces grands barrages-là, donc tout début des années 80. Et c'est vrai que c'est un traumatisme hein, pour noyer un village, noyer une vallée. C'est un traumatisme pour les mémoires. Et en même temps, c'est hyper romanesque. Donc, c'était obligé que j'y fasse un petit peu référence dans cette prochaine histoire.
Alors, la sortie de Deuil de sel le 19 mars 2026 aux éditions Presse de la Cité n'est pas passée inaperçue, c'est le moins que l'on puisse dire. Était invité au plus grand salon du polar au monde, le fameux Quai du Polar à Lyon. C'était du 3 au 5 avril 2026. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au milieu des plus grands du genre, là,
Oui, alors, pour être tout à fait honnête, avec toi et tes auditeurs, je n'ai pas été invité par la programmation. J'ai été invité, et c'est presque aussi bien, sinon mieux, par les libraires, parce que les libraires, lorsqu'ils ont un chouchou qui n'est pas dans la programmation, ont le droit à quelques invitations joker. Et donc, il y a un libraire que je remercie beaucoup, qui s'appelle L'Esprit Livre, et qui me suit depuis le début, à Lyon, qui m'a appelé en me disant « Écoute, il faut que ce soit toi, viens, etc. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Quai du Polar. J'ai fait sold out, d'ailleurs, j'ai tout vendu, c'était super, j'ai fait sonner la cloche, comme on dit. Ce que ça fait, écoute, moi j'ai arpenté ce salon pendant des années comme lectrice, j'ai fait des queues invraisemblables pour avoir des dédicaces, enfin, j'ai été comme une gamine pendant je sais pas, 10-15 ans dans ce salon, et pour la première fois passée de l'autre côté de la table, j'étais mais comme une dingue, voilà, j'ai passé 3 jours sur orbite. J'ai eu 15 ans à nouveau et c'était, franchement, c'était merveilleux. Puis en plus, c'était chez moi, donc il y a eu ma mère, mon frère, les copains d'école, les enfants des copains d'école, ça fait plus mal. Et non, c'était super, vraiment formidable.
Alors, depuis le 19 mars 2026, donc tu n'as pas chômé, hein, c'est moins que l'on puisse dire, Salon du Polar à Lens, Librairie des Canuts à Lyon, Salon du Livre à Metz, Festival du Livre à Paris, Librairie Zanini à Bourg-en-Bresse, Médiathèque à la Tour du Pin, Espace culturel Leclerc-Bénaud et Salon en Côte d'Opale, jusqu'à ce jour. Et ce n'est que le début hein, d'une très longue saison de séances dédicaces et de rencontres. Tu as l'impression que tout s'accélère et que tous les salons t'ouvrent leurs portes, ce qui était loin d'être le cas il y a 3 ans. Hein.
Bon, c'est sûr que c'est un peu, enfin, y a des choses qui sont un petit peu plus faciles,
ouais.
Ou en tout cas qui me sont accessibles maintenant, qui forcément ne me l'étaient pas, il y a 3 ans.
Même l'année dernière, ou même il y a 2 ans.
Ou même il y a 2 ans, ouais. Mais ça c'est aussi l'effet du changement de collection. Encore une fois, l'affichage d'un brochet en Terre de France ou l'affichage d'un brochet dans une collection noire t'ouvre les salons du polar, alors que sinon...
C'est aussi simple que ça.
Oh, c'est pas simple, non. Mais en tout cas, c'est pas une condition nécessaire, mais c'est quand même une condition suffisante que d'être identifié en grand format comme un polar, quand même. Mm-hmm. C'est mieux d'être identifié dans un polar pour pouvoir être invité dans un salon du polar. Et c'est le cas avec Deuil de sel, peut-être un peu mieux. Peut-être que la préface d'Éric Foissier aussi joue un peu. Et puis, à un moment donné, l'air de rien, ça fait quand même 4 ans maintenant que je suis dans la place.
Oh.
Et que
non, ah,
oui,
c'est
la quatrième année.
Ah, quatrième année, d'accord.
Et j'ai quand même trois bouquins chez 10-18 en poche. Et 10-18, c'est une vraie référence en matière, malgré tout, de romans policiers, de romans policiers historiques, hein, dans la veine des grands détectives d'antan. Et ça commence aussi à porter ses fruits.
Ouais. Alors, il y a plein de personnes, je pense à certains influenceurs et aux blogueurs, mais aussi à des libraires influents, je pense à Gérard Collard, hein, qui te découvre alors qu'il y a 3 ans, il ne te connaissait ni te parlait, pas de toi d'ailleurs. Donc, t'as changé de statut.
Oh, je n'irai pas jusque-là, non, oui. Non. Oh.
T'aimes des romancières à inviter, t'es pas the place to be, t'es...
exactement tout pareil, simplement tout pareil. C'est vrai qu'à force de voir tourner les bouquins, tu finis par capitaliser forcément, on finit par te connaître un petit peu mieux, puis les libraires...
Ils ont mis un petit peu de temps, non, enfin, par rapport à nous par exemple, tu vois.
Oui, par rapport à d'autres auteurs, moi ça me dérange, encore une fois, vraiment c'est sincère, j'aime bien aussi, moi s'il me faut 5 ans, il me faut 5 ans, s'il me faut 10 ans, il me faut 10 ans, s'il me faut 15 ans, il me faut 15 ans, je m'en fiche en fait. Dans mon boulot, c'était pareil. Je m'en fiche, je cherche pas à avoir tout de suite tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, progresser, rencontrer des gens, y aller à mon rythme. J'apprends. Et chaque année qui passe, je sais plus de choses que l'année d'avant, et c'est très bien comme ça. J'ai pas besoin de starisation ou de choses comme ça. Les choses se font comme elles doivent se faire et à leur rythme, et c'est très bien comme ça.
Alors, je parlais de rencontres et de séances dédicaces. Côté prix, tu continues à en recevoir. Hein, le prix Vaux-Village pour Marc de Fabrique.
Ouais, le prix Vaux-Village.
Le prix Cabri d'Or des lycéens 2025. Non.
Ouais, ça c'est off, mais...
C'est off. Ah bah, je l'ai lu.
Non, mais j'étais en sélection pour l'instant.
Ah, pardon. Oui, alors la sélection pour le prix Cabri d'Or.
Voilà.
Le prix Polar Michel Lebrun, par contre. Oui,
prix Polar Michel Lebrun. Prix Polar Michel Lebrun. Pour Dur comme fer.
Voilà. Donc tes trois premiers romans continuent vivre et de bien se vendre. Alors, je pense en particulier à Marc de Fabrique, hein, qui fait toujours l'objet de nombreux messages sur les réseaux sociaux, alors que depuis, il y a eu quand même 3 autres romans qui sont sortis quand même.
Oui, il tourne toujours très bien. Il continue sa petite vie. C'est assez incroyable. Et puis, alors, il a été un vrai succès en Italie. Vraiment, il a été plus vendu en Italie qu'en France. Étonnamment, très étonné.
Donc, justement, tu disais, on parle d'Italie, les samedis 4 et dimanche 5 octobre 2025, tu étais au Festival des littératures ouvrières à Crespi d'Adda en Italie, où tu présentais la Fabbrica del Destini Invisibili, Il Silenzio dei Lupi, autrement dit Marc de Fabrique et la Constance de la Louvre, pour les non-italiens que nous sommes tous. Comment s'est passée la rencontre avec ton public dans une autre langue que celle de Claude Tardi?
C'était vraiment très impressionnant. Alors d'abord, la ville de Crespi d'Adda est incroyable. S'y tient donc le Festival des littératures ouvrières parce que c'est une ville entière, c'est une ville entreprise en fait, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, elle est encore habitée, c'est ça son originalité, mais c'est une ville qui a été conçue au 19e siècle complètement autour de son usine, de ses usines, et tout est industriel, les maisons ouvrières autour, l'école ouvrière, l'église des ouvriers, et c'est une ville, c'est vraiment une espèce de ville qui tourne uniquement pour et par son usine, une espèce d'utopie, vraiment industrielle, assez étonnante et qui n'a pas d'équivalent en fait ailleurs dans le monde.
D'accord.
C'est vraiment un endroit magnifique et impressionnant d'un point de vue industriel, et c'est pour ça donc que la littérature ouvrière, le Festival des littératures ouvrières se tient là-bas en Italie, et c'était super d'y être invitée parce que c'était totalement dans mon monde, quoi. C'était super. J'ai bien sûr accepté leur aimable invitation à une condition, c'est d'avoir une interprète, hein, parce que comment te dire, mon niveau d'italien est assez pourri à part spritz et voilà, pizza et pasta. Et vongolais.
Tutti buoni aussi.
Tutti buoni. Mais à part ça, effectivement, c'était pas terrible. Puis mon anglais, c'est pas énormément mieux. Donc voilà. Non, j'ai eu une interprète et c'était vraiment très impressionnant de voir. Je ne pensais pas que les Italiens pourraient se passionner pour la révolution industrielle dans l'Ain ou la mécanisation en Lozère. Tu vois, je l'imaginais pas. Et ben pas du tout, parce que d'abord, ils ont une grande. On partage une vraie passion pour l'histoire industrielle. Notamment le nord de l'Italie, qui a été très industriel. On a des liens très forts par les migrations, notamment italiennes, bien sûr. Et puis une grande amitié. Grande, grande amitié, je trouve. Et puis ils ont un vrai goût du romanesque aussi. Donc ces histoires-là leur plaisent vraiment beaucoup. Donc non, c'était super.
Et ils aiment la bonne bouffe et le bon vin aussi.
Oh là là, mais c'est un bonheur l'Italie. Ah, tu mets les pieds en Italie, mais pff, déjà t'es heureux. En fait, on dit que les Italiens, c'est des Français de bonne humeur.
Alors, ton troisième roman, Dur comme fer, n'est pas encore sorti en Italie. Alors, qu'en auraient pensé Nando et Antonio? Ils auraient bien aimé que leur histoire soit traduite dans leur langue maternelle.
Moi aussi, mais je ne sais pas pourquoi.
Ça ne s'est pas fait.
Non, pourtant, pas là, pour l'instant. Bah oui, je l'ai écrit presque pour eux. Parce que c'est mon amour pour l'Italie. Bah oui.
Oui.
Et bah, bizarrement, paradoxalement, peut-être que justement, c'était trop italien.
Ah. Bon, alors j'imagine que tu es hyper sollicité, c'est très gratifiant. Comment ne pas se disperser et gérer à la fois l'écriture et la représentation? Tu es obligé de dire non à des salons, des libraires ou des médiathèques?
Bien sûr, je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup non.
Ah ouais?
Ouais. Bah, d'abord parce que quand tu as 4 invitations sur un week-end, ça fait 3 non, minimum, voire 4, hein, mais ça fait au moins 3 non. Ensuite, parce que effectivement, c'est très chronophage et très fatigant, donc il faut essayer de prioriser un petit peu les choses pour garder de l'énergie, pour continuer à créer, effectivement. Parce que j'ai d'autres choses dans ma vie, des activités professionnelles, une famille, je voyage, enfin, j'ai aussi d'autres trucs dans ma vie, j'ai pas que ça. Et ça reste important pour moi, ça reste, cet équilibre-là des choses reste important, et ça m'oblige finalement à devoir piloter, circonscrire un petit peu, et effectivement, oui, non, je suis obligée, c'est vraiment pas pour me la péter, mais je suis obligée, bien sûr, de refuser des trucs. Alors bon, ça va, c'est pas non plus, je refuse pas des choses folles, hein, non plus. Ouais. Je refuse pas la grande librairie, tu vois. soyons francs.
Ouais. Hein. Ouais, ouais.
Mais oui, bien sûr.
Tu fais des choix, quoi. Donc,
mais tu fais, bah, ouais, tout le monde fait, bah, bien sûr, mais tout le monde fait des choix. Ouais, ouais. Tout le monde fait des choix tout le temps. Voilà. Alors, la seule chose, c'est que c'est un peu frustrant. T'as passé tellement de temps, des fois, il n'y a pas si longtemps, à te battre, tu vois, pour toucher un libraire, pour toucher un salon. Mmh. Et tout d'un coup, t'as 10 libraires ou 10 salons qui tombent sur la même date. Et tu te dis, mais waouh.
C'est trop facile.
Et là, c'est énervant parce que tu te dis, mais vous étiez où, les gars, voilà, quand je vous cherchais? Et maintenant, vous êtes tous là, bah, tant mieux.
Ouais. Ce qu'on appelle des découvreurs de talent, ouais. Voilà. Ouais. Côté cinéma, où en est l'adaptation de Marc de Fabrique? As-tu une bonne nouvelle à nous annoncer?
Bah, la bonne, enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, ils ont conçu un scénario qui m'a été soumis, que j'ai lu, et qui est en recherche de réalisateur pour l'instant.
Ah, mais c'était le cas l'année dernière aussi, non?
Ah oui, je sais plus.
Bien, allez, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Cécile, quel est ton dernier coup de cœur littéraire?
Ah, c'est une bonne question. Bah, je vais pas être originale, mais c'est le dernier livre que j'ai lu et c'est le dernier livre de Éric Foissier, son 5e volume du Bureau des affaires occultes et de Valentin Verne, qui est sorti il y a pas longtemps et qui s'appelle Les archanges de la nuit.
Aux éditions Albin Michel, je crois.
Absolument.
Voilà. Côté proposition de la quinzaine, alors notons le thriller d'Anna Bailey, Le dernier jour sauvage aux éditions Sonatine, le livre de Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique aux éditions Point, qui est en spectacle la semaine prochaine du côté du théâtre à Bourg-en-Bresse, le thriller de Christine Adamo, Je suis un monstre aux éditions Tornada, le polar de Julien Freux, L'île hallucinée aux éditions Actes Sud, le thriller d'Ingrid Desjours, Une bonne épouse aux éditions HarperCollins Noir, le roman de Thierry Moiroux, Des Invisibles aux éditions Des Invisibles tout court, le thriller de Holly Jackson 7 jours avant la tombe aux éditions HarperCollins Noir, le roman de Stéphane Chaumet L'autre côté de la nuit aux éditions du Rouergue, le polar d'Émilie Chani Obsession aux éditions Tornada, les thrillers de Laure Rollier, La disparue de Nantucket et L'ombre du lac aux éditions Récamier. Tu connais Laure
oui,
Rollier?
Oui, absolument.
C'est bien. Le roman de Céline Dessaigne Un peu de jour à la nuit aux éditions Unicité, le polar de Yann Manouk. Tu connais Yann Manouk?
Oh, j'adore Yann Manouk. Voilà. J'ai adoré ses Yérules d'Elger.
Voilà. Puis son duo avec Gérard
Coquet. Avec Gérard
Coquet,
voilà. Ouais, souviens-toi de Sarah Petchkoman. Voilà, absolument. Voilà.
Donc le polar de Yann Manouk, Min Jung aux éditions Flammarion, le livre de Karine Warin, Olivier Lino et Sophie de Brabander, Le management équilibré aux éditions EMS, Le roman de Brett Anthony Johnson, La lumière, les ténèbres, aux éditions Albin Michel. Le polar d'Anthony Horowitz, M comme meurtre, aux éditions Sonatine. Le thriller d'Anouk Schoenberg, une jurassienne que tu connais.
Mmh. Oh, je connais de nom et que je croise dans les salons. Mais...
Voilà, voilà. Ouais. C'est une jurassienne, elle dole à la base.
Ah ouais.
Voilà. 14 minutes, 2 secondes, aux éditions Récamier. Le polar de Céline Serval, Les refuges des affligés, aux éditions Tornada. Le roman de Pier Giorgio Pulici, La marée silencieuse, Pulici, aux éditions Gallmeister. Tu connais?
Oui, enfin, juste du côté de nom.
Ouais. Et le thriller de François-Xavier Dillard, La ferme, aux éditions Récamier.
Pour je peux en rajouter un?
Bien sûr.
Ma copine Céline Guis, qui a sorti son dernier Jules Verne. Jules Verne est le secret de la Tour Eiffel, son troisième Jules Verne chez Fayard, et c'est super ce qu'elle fait.
Voilà, on le réannoncera le mois prochain, et puis on espère juste qu'elle viendra faire un tour dans le coin, parce qu'elle vient pas, elle est pas invitée au salon du polar du coin, pas encore, à notre grand regret. Enfin, je pense à ses pages noires, je parle à 100% polar, je pense à...
Elle l'a eu été, alors après c'est vrai que peut-être, ouais, mais...
Voilà.
Mais bon, puis en plus, elle habite plutôt dans le nord, ouest.
Ouais, c'est vrai. Romangard, c'est terminé pour aujourd'hui. Cécile Baudin, grand merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Romangard. Rappelons que ton quatrième roman, Deuil de sel, est paru le 19 mars 2026 aux éditions Presse de la Cité, dans la collection Presse de la Cité Noire.
Ouais, et puis n'hésitez pas à aller l'acheter en librairie. Les libraires ont besoin de nous. Donc, Go chez Montbarbon, chez Zanini, chez Buffet, partout où il y a des livres et où les libraires ont besoin de nous.
Et à Saint-Lin-les-Bains aussi.
Et à Saint-Lin-les-Bains, bien sûr. C'est la maison de la presse qui m'accueillera samedi.
Voilà. Donc on peut se procurer ton bouquin dans toutes les bonnes librairies, tu disais, sans oublier les trois premiers quand même.
Bien sûr, qui sont désormais tous les trois en poche.
Alors que ce soit en broché, en poche, aux éditions 10-18, en version audio libre chez Lydie, en gros caractère chez Oculus, je l'ai vu à la bibliothèque de Perona, c'est très bien. Ou en version italienne, bien sûr, aux éditions du Nord, paraît-il.
Les éditions du Nord, exactement.
Ouais. On peut suivre ton actualité sur Internet, via ton site Internet. Attends, c'est tellement rare, hein, www.cécilebaudin.fr.
Et bah pourquoi c'est rare?
Tu regarderas les auteurs qu'on a sur site internet.
Ah ouais,
c'est hyper rare. Hyper
rare. Ouais, écoute, à l'ancienne, mais c'est une façon importante d'avoir un point unique où on est sûr de trouver des informations justes et à jour.
Exactement. Et en plus, c'est à jour, puisqu'on y parle de Radio B.
En plus.
Non, mais là, ils ne sont pas à jour parce qu'ils ne parlent pas de Radio B, alors qu'ils viennent chez nous.
Voilà.
Sans oublier, évidemment, les inévitables réseaux sociaux.
Et bien sûr.
Bien sûr. Cécile, bonne chance pour la suite de tes aventures de romancière.
Merci Michel. Bonne chance à Radio B pour la suite aussi.
Voilà, bonne séance dédicace, bon salon et puis je dirais à l'année prochaine sur Radio B.
À bientôt.
À bientôt.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose.